14h. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Ici, on écoute et on observe de plus près le monde qui est en train de changer. Et on le voit, hein, depuis la crise, des choses s'accélèrent. Vous êtes nombreux à construire le monde de demain. Et vous êtes au bon endroit pour présenter vos idées, vos initiatives. Pour en parler, à mes côtés, Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bonjour Aurélien.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et notre coach de la semaine, Pierre Pézziardi. Bonjour Pierre.
Bonjour Elisabeth.
Entrepreneur du numérique, cofondateur de l'initiative agricole La Ceinture Verte. Alors on le voit chaque jour dans La France Bouge, ceux qui osent, ceux qui ont l'audace de se lancer même si la période est compliquée. Mais dans toute crise, il y a des opportunités comme avec vous. Bonjour Alexandre Dudy.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1 en direct. Vous êtes le fondateur de Spours.fr. Spours, c'est S-P-2-O-R-S.fr. C'est une start-up qui permet d'être joignable sans que mes coordonnées n'apparaissent nulle part. Par exemple, je donne un exemple parce que sinon, moi quand j'ai reçu votre candidature, au début je ne comprenais pas trop. Par exemple, si j'ai un dégât des eaux à la maison, votre produit, donc le Spores, est prévenu sous la forme d'un QR code, hein, ça remplace mon téléphone, donc mon numéro ne circule pas, ça passe par un sticker, une vignette ou un QR code. Alors je vais vous laisser détailler le produit, comment avez-vous eu l'idée? Combien ça coûte? C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Eh bien, effectivement, la promesse principale, c'est ça, hein, c'est d'être joignable depuis n'importe quel objet sans dévoiler vos coordonnées. Donc, on a développé une technologie qui est brevetée, qui prend la forme d'un autocollant qui intègre un QR code personnalisé et que vous collez où vous voulez. Et le fonctionnement est très simple, c'est que quand quelqu'un scanne votre QR code, il peut vous contacter. Il n'a pas besoin de charger une application au préalable et vous, vous restez anonyme. Et c'est même vous qui choisissez les canaux de contact proposés selon l'heure de la journée. Et donc, si on veut illustrer, on peut donner plusieurs autres exemples. Si vous collez un Spours au dos d'un Pass Navigo, au dos d'un smartphone, enfin d'un passeport, n'importe quel objet de valeur, ça permet en cas de perte à la personne qui le retrouve de vous contacter facilement et rapidement. Vous pouvez aussi le coller sur le pare-brise de votre voiture, ça devient une vignette connectée et donc vous pouvez être prévenu si vous gênez la circulation, mais tout en restant anonyme. Et puis sur votre boîte aux lettres, ça devient une sonnette connectée, donc vous pouvez indiquer au livreur, même si vous n'êtes pas là, vous lui donnez des instructions pour déposer le colis. Et le mieux, c'est vraiment d'aller sur notre site spours.fr, S-P-O-O-R-S.fr, puisqu'en ce moment, tous nos produits sont gratuits. Donc le mieux, c'est d'en commander. Et je suis certain que vous allez inventer de nouveaux usages. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, en fait. C'est que Spours, c'est une manière nouvelle de communiquer, qui est simple, qui est universelle, et surtout qui préserve l'intimité.
Merci pour votre pitch, Alexandre Dudy. Je tiens à préciser que vous êtes Spores et commercialisé depuis 28 mai. Donc c'est tout récent, c'est tout jeune. Et vous aussi, vous avez osé, là, pendant la crise, vous avez osé d'entreprendre comme ça dans une entreprise. Je me tourne vers Pierre Pézziardi, notre coach, qui va vous poser sa première question.
Merci Elisabeth. Bonjour Alexandre. Donc, comment vous comptez finalement monétiser et en vivre de cette activité, d'après vous ?
Alors, on va développer un modèle classique, un modèle de freemium, c'est-à-dire que nos produits seront proposés à des coûts très compétitifs et on va ensuite développer des services adossés à ce produit de base, en fait.
Donc, vous avez entendu Pierre ?
Ouais, ok. Et est-ce que vous avez imaginé peut-être, donc ça serait le client final qui paye, quoi qu'il en soit ?
Alors, freemium, pas forcément. En fait, on cherche à massifier la diffusion. Et donc, on cherche des partenaires qui pourraient acheter les Spours et les offrir à leurs propres clients comme un goodies. En particulier, on pense à deux secteurs, le secteur du transport.
Par exemple, j'oublie mon téléphone ou j'oublie mes clés dans un taxi, c'est ça ? Et vous pouvez intervenir ?
C'est ça, ou même la RATP pour le Pass Navigo, ou la SNCF pour mettre sur les valises. Et si quelqu'un oublie sa valise dans la gare ou Air France dans un aéroport, bah, c'est plus facile de contacter la personne avant d'envoyer les policiers pour faire exploser le bagage. Et puis on cherche aussi, dans le secteur de l'assurance, des partenaires, puisqu'en fait, on voit bien l'utilisation de la vignette connectée. Hein. C'est vous êtes garé sur un parking dans un supermarché, on vous percute. Et bien là, c'est beaucoup plus simple de vous mettre en relation en scannant le QR code pour que vous veniez faire le constat. Même chose dans la porte d'entrée, vous avez un dégât des eaux, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça vous permet d'être contacté, d'intervenir plus rapidement et de limiter les dégâts des eaux.
Il y a une valeur quand même d'image dans votre chose aussi, parce que c'est quand même des dispositifs qui restent affichés partout, sur une boîte aux lettres, oui. Sur un PC, donc on voit, que les gens voient régulièrement. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des gens qui sont intéressés pour être présents en termes d'affichage et qui pourraient être le tiers payeur qui rende gratuit le dispositif.
Complètement, ça c'est un autre atout. On a quelques contacts avec des gros acteurs. Et en fait, ce qu'ils mettent en avant, effectivement, c'est la répétition de leur marque.
Et oui.
Quotidiennement, sur sa voiture, sur son logement, sur son PC. Enfin voilà. Donc ça, c'est aussi un atout important pour des marques qui cherchent à augmenter la présence à l'esprit.
Aurélien Fleureau.
Oui, pour l'aspect diversification et présence, pour qu'on sache en fait que ce QR code existe, donc ça peut passer par des partenariats, on pense à la RATP et le Pass Navigo. L'idée, c'est justement que ça fasse partie un peu du package pour vous, qu'on sache que ce QR code existe, parce que sinon, ce serait un peu décevant de se dire, je trouve un Pass Navigo et je ne sais même pas que ce QR code existe, je ne sais pas quoi en faire.
Oui, comment le rendre visible et comment que tout le monde puisse être au courant.
Ouais.
Voilà, c'est un peu tout l'enjeu et c'est pour ça qu'on cherche à massifier avec des partenaires importants. Après, je pense que l'usage va se répandre. Aujourd'hui, le QR code, c'est plus un frein. Ça l'a été il y a 3 ans et aujourd'hui, on voit avec le Covid et notamment dans les restaurants, le fait que le QR code est une pratique habituelle.
Ça va rentrer dans la routine, hein, dans les mœurs de plus en plus avec le coronavirus. Moi, je voulais vous poser une question, Alexandre Dudy. Pourquoi vous avez fondé ça? Pourquoi, d'où vous est venue
Alors, comment est venue l'idée?
Ouais.
Mais en fait, je suis assez tête en l'air et un jour, j'étais dans un parking et j'avais mal serré le frein à main. Et ma voiture a glissé et a bloqué complètement l'accès. Donc heureusement, ma course était courte, donc j'ai pu revenir à temps. Et ma voiture n'a pas été embarquée à la Fourrière. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas me contacter depuis mon véhicule alors que je gêne la circulation. Et ça m'aurait pris 2 minutes de déplacer mon véhicule.
Et là, dans ce cas précis, comment intervient Spurs?
Eh bien, là, en ce moment, moi, j'ai une vignette, j'ai un Spurs sur mon pare-brise.
Ouais.
Et donc, si je gêne la circulation, c'est marqué en gros sur la vignette, pour me contacter, scannez-moi. Donc, la personne a juste à scanner le QR code en ouvrant sa caméra sur son téléphone et ça m'appelle.
Vous êtes convaincu, Pierre Pézardi et
oui,
Aurélien
Oui, je pense qu'il faut que tu trouves une première opération massifiante, oui, soit
un
avec une entreprise
qui
équipe tous ses portables de ce genre d'étiquettes pour ses employés. Et je ne doute pas que tu vas trouver cette première opération et qui va tout lancer.
Pour les
après, l'objet
pour les
est
européen, par
oui,
exemple.
Pourquoi
moi,
pas.
Moi, j'oublie tout le temps.
Moi aussi, tout le temps. Je
saisis la perche avec plaisir.
Bah, on vous mettra,
je peux vous envoyer quelques sports.
On vous mettra en contact, en tout cas. Et moi, je tiens à vous dire que nous, dans l'équipe, on l'a testé. Hein. Laetitia Farine et Charlotte Barrican l'ont testé en préparant l'émission. Et ça marche hyper bien. Donc voilà, on vous félicite. Bravo.
Merci.
À vous, Alexandre Dudy, le fondateur de Spurs.fr, SP2ORS.fr. Merci à vous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Aurélien Fleureau avec sa solution du jour. Aujourd'hui, Aurélien, vous avez choisi de nous faire visiter les coulisses des entreprises 100% françaises.
Exactement, c'est possible grâce au travail du réseau Entreprises et Découvertes, qui est une association d'intérêt général qui existe depuis 2012 et qui apporte tous les détails sur près de 20 000 entreprises qui ouvrent leurs portes au public. L'objectif est simple, pouvoir s'immerger au cœur des usines, des ateliers. Ces entreprises accueillent 15 millions de visiteurs en moyenne chaque année. Alors, tous les secteurs sont concernés, l'artisanat, l'industrie, la gastronomie, la cosmétique avec de nombreuses parfumeries à visiter par exemple. Et donc évidemment, cette année, ces entreprises ont souffert de la crise du coronavirus et c'est la raison pour laquelle le réseau Entreprises et Découvertes a lancé une campagne de communication pour cet été. Marie Cario, bonjour.
Bonjour Aurélien.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'animatrice de ce réseau et donc votre constat cette année est simple. Une large majorité de Français va rester en France pendant les vacances et donc ce sera l'occasion idéale de découvrir ces savoir-faire. C'est de là que votre constat est parti.
Oui, tout à fait. Alors ce constat, il n'est pas uniquement lié à la crise qu'on a tous traversée cette année. Alors je me permets juste un petit correctif. Aujourd'hui, nous animons un réseau de 2000 entreprises qui ouvrent leurs portes toute l'année au public. Bientôt 20 000, c'est l'objectif.
Oui, 2000 et 15 millions
de visiteurs. Mais 15 millions de visiteurs aujourd'hui qui se répartissent sur 2000 entreprises qui proposent des visites de leur site de production toute l'année. Donc, en effet, cette année, le climat, je ne vous apprends rien, hein, est quelque peu particulier. Et donc, beaucoup de personnes qui ont l'habitude de partir ailleurs que sur notre territoire national vont rester de facto sur le territoire. Et donc, c'est l'occasion justement de partir à la découverte des savoir-faire locaux, que ce soit près de chez soi, puisque très souvent, c'est ce malheureusement qu'on connaît le moins, il faut être honnête, près de chez soi ou sur son lieu de vacances, d'où l'intérêt pour notre association Entreprises et Découvertes de booster un petit peu la visibilité de cette filière de la visite d'entreprise avec notre campagne de communication
où il rêve de visite. Et justement, comment on fait pour savoir ce qu'il y a tout près de chez soi, oui, sur notre
lieu de vacances? Qu'est-ce qu'on peut visiter? Alors, on peut visiter, on va dire, de l'atelier d'artisans d'art à la centrale EDF, barrage de la Compagnie Nationale du Rhône. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces 2000 entreprises, on a un panel d'activités, de secteurs qui sont extrêmement intéressants, qui représentent de toute manière la diversité de nos savoir-faire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut visiter les caves de Roquefort si vous êtes dans l'Aveyron. Vous pouvez bien évidemment visiter les parfumeries Fragonard si vous êtes du côté de Grasse. À Saint-Nazaire, vous avez des visites absolument formidables, que ce soit sur les chantiers de l'Atlantique, qui propose des visites tout l'été, là, qui vont reprendre très prochainement. Vous avez également les sites d'Airbus. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité de visites pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les curiosités.
Et pour ces lieux-là, c'est encore plus crucial cette année. Ils ont eu un peu l'effet double peine, activité réduite et les visiteurs ne pouvaient pas venir.
C'est ça, parce que la spécificité, si vous voulez, de cette filière de la visite d'entreprise, c'est qu'on est à la fois à cheval entre le monde économique, puisqu'on parle bien d'entreprises dont l'activité première reste l'activité de production, mais en même temps, ces entreprises-là se transforment quelque part en acteurs touristiques, parfois... presque à plein temps, j'ai envie de dire, en accueillant du public sur leur site de production.
Et donc, ils ont des personnes dédiées à cela dans les entreprises?
Oui, juste pour le public. Souvent, dans, je dirais, à peu près 60-70% des entreprises, on termine un observatoire justement sur ces questions qui sera dévoilé dans les...
Ça s'appelle comment comme métier?
Dans les prochains jours, c'est des personnes qui soit sont issues du service communication et ont une formation en interne pour assurer justement toute la gestion de l'aspect visite. Donc ça va de la prise de réservation, ça va jusqu'au guidage, l'accompagnement des personnes, gestion de la boutique. Donc soit c'est des personnes qui sont issues de l'entreprise, ce qui est, on va dire, la meilleure configuration puisque c'est elles qui connaissent vraiment l'entreprise depuis très longtemps et qui donc ont été détachées de leur mission initiale pour ensuite s'occuper de la gestion de cette partie touristique. Soit c'est des personnes qui ont été recrutées exprès, souvent plus issus du monde du tourisme et qui donc viennent appuyer l'activité de l'entreprise sur cette partie-là.
Que dit notre coach Pierre Pizzardi?
Il s'interroge. Marie, qu'est-ce qui se passe de bien quand il se produit une visite au fond? Parce que je comprends que les contextes des visites sont tu parles de tourisme, donc je peux y aller. Amener mes enfants, par exemple,
on peut aller visiter une parfumerie.
Voilà, mais en famille.
En famille.
Mais je pourrais, il y a aussi dans le flot de transactions que tu facilites, il y a, j'imagine, également des scolaires qui y vont.
Bien évidemment, oui.
Est-ce que tu peux nous préciser pour le public, qu'est-ce que tu vois de bien? Qu'est-ce qui se produit de bien quand il se passe une visite, en fait? À quoi ça sert?
Oui. Alors nous, on défend vraiment, avec ces visites d'entreprise, on défend vraiment... des valeurs qui sont très fortes et qu'on retrouve généralement dans toutes ces visites, c'est à la fois favoriser la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, puisque quand vous accueillez du public chez vous, vous ne pouvez pas leur mentir. Vous êtes obligé d'être transparent à la fois sur l'origine de vos matières premières, sur la façon dont vous fabriquez vos produits, sur tout l'environnement social et économique de votre entreprise. Donc pour l'entreprise, on est vraiment dans un dialogue en toute transparence avec le visiteur-consommateur, j'ai envie de dire. Et donc pour l'entreprise, c'est vraiment gagnant-gagnant puisqu'elle engage une communication directe avec ce visiteur. Et on sait très bien qu'une personne qui est venue visiter une entreprise se transforme en client plus ou moins fidèle à moyen-long terme de cette entreprise. Vous avez visité les savonneries Marius Fabre. Vous les retrouvez près de chez vous parce qu'ils ont une boutique ou parce qu'ils sont dans des réseaux de distribution. Vous avez envie instinctivement de racheter ce produit parce que vous en avez vu la fabrication et vous connaissez l'origine.
C'est pour inciter à acheter français?
Tout à fait. Alors ça contribue également au fabriqué en France et au consommé local. Ça c'est évident.
Mais il y a un bénéfice côté également visiteur. Là, entreprise, on le voit.
Oui, communication directe, oui, tout à fait.
Mais côté visiteur, lui, tu m'indiquais qu'il y a quand même, ça peut élargir des horizons.
Oui, tout à fait. Ça peut élargir des horizons, on va dire, que ce soit pour des publics jeunes, mais pas forcément. Hein. Même des publics, on va dire, plus âgés qui sont en reconversion professionnelle et qui, grâce à la visite, vont pouvoir justement découvrir des univers professionnels de manière très factuelle et favoriser plus ou moins certaines reconversions. Pour le visiteur, c'est également l'occasion de découvrir vraiment des savoir-faire emblématiques de territoire. Donc, on est vraiment dans le côté culturel, c'est-à-dire que je suis à Saint-Nazaire, justement, je reprends cet exemple. Les chantiers navals font partie prenante de l'histoire du territoire. Donc là, c'est l'occasion d'aborder le territoire d'une autre manière et d'en apprendre plus sur son histoire économique, sociale, patrimoniale, etc. On est vraiment dans le développement culturel des territoires. Et pour le visiteur, ces visites d'entreprise constituent un véritable tourisme culturel. Donc, c'est vraiment intéressant. On est sur des enjeux de comment ça marche, découvrir les coulisses. On est sur une activité un petit peu inédite parce qu'on sort un peu des sentiers battus.
Ça peut être une sortie pour cet été, comme la visite d'un musée. On va visiter comment fonctionne une entreprise.
Voilà, vous allez à Limoges, par exemple, vous visitez le musée de la porcelaine. Mais en plus du musée de la porcelaine, qui est très beau, que vous pouvez visiter, vous pouvez également visiter la fabrique de Bernardo, qui est absolument formidable. Donc là, vous avez le côté patrimonial, mais vous avez ce côté très concret.
Alors, comment on fait justement si je vais à Limoges demain ?
Eh bien, alors, vous avez notre site internet, donc entreprise et découverte.fr, qui référence l'ensemble des visites aujourd'hui qui sont accessibles. Le site vous permet d'avoir l'ensemble des informations pratiques accessibles très, très facilement, donc que ce soit les horaires, les conditions d'accueil, comment je fais pour réserver. Vous pouvez contacter directement l'entreprise via le site avec un formulaire. Donc toutes les demandes sont envoyées directement à l'entreprise. Donc comme ça, l'entreprise fixe avec vous les modalités de visite. Parfois, il suffit d'un simple coup de téléphone pour informer
sa visite. Les créneaux sont fixés. Allez, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on pourrait aller visiter ? Donnez-nous 4-5 exemples de
4-5 exemples de belles visites. Oh, alors là, il y en a plein.
Parce que la centrale, c'est intéressant. Mais
c'est absolument formidable. Je vous avoue que c'est quand même très intéressant. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est unique et ça permet de découvrir un monde sur lequel on peut avoir beaucoup d'idées reçues et de préjugés, ce qui s'entend complètement. C'est d'ailleurs pour ça que EDF ouvre les portes de ces centrales au public pour permettre justement de découvrir un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur.
Accessible, hein, et que ce soit pas un monde qui paraît muré.
Oui, fermé et enfermé.
Quoi d'autre ? Alors, deux, trois autres
idées. Une visite que j'affectionne beaucoup à Brive-la-Gaillarde, qui est la distillerie de noix. Je crois que vous aviez reçu d'ailleurs Sylvie Denoy à l'occasion dans cette émission. Une distillerie absolument formidable. Vous poussez cette porte et vous rentrez dans un monde qui vous paraît presque surréaliste derrière cette porte. C'est une distillerie familiale qu'elle tient depuis 5 générations. Et donc ça, c'est une très, très belle visite. Si vous êtes dans le sud, vous avez la visite des confiseries du Roi René, qui est vraiment une très belle visite. Et là, donc, on a un interlocuteur fort sympathique, Alexis Bertouka, qui, en plus de la fabrique, vous fera visiter le jardin méditerranéen qui a été nouvellement implanté et qui vous expliquera toutes les démarches environnementales portées par le Roi René avec la plantation des amandiers. Donc ça, c'est une très très belle visite également.
Et ben voilà. Et ben on va y aller. Hein. Vous êtes convaincus, Pierre, Aurélien.
Merci.
Et ben
voilà.
Et on peut aussi ajouter qu'il y a un guide du routard.
Guide du routard.
En plus du site internet
pour retrouver toutes ces adresses et toutes les entreprises que l'on peut visiter.
Si vous n'êtes pas fan du digital, vous pouvez prendre votre routard de la visite d'entreprise et vous retrouverez 450 très belles adresses à visiter partout en France.
450 très belles adresses à visiter partout en France. Merci à vous, Marie Cario.
Merci.
Vous êtes animatrice du réseau Entreprise et Découverte. Merci.
Merci.
Europe 1, il est 13h26. Comment rompre l'isolement des seniors cet été ? Veiller sur eux, leur donner un coup de main ? Eh bien, c'est le dossier du jour et on en parle avec nos trois invités. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est bientôt les vacances d'été et nous allons nous parler des seniors. Les seniors qui sont souvent isolés pendant l'été puisque la famille part. Ils n'ont pas toujours le même nombre de visites par semaine. Alors comment rompre l'isolement des personnes âgées cet été ? Veiller sur eux, leur donner un coup de main. Bonjour Alexandre Durand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Allo Louis. Allo Louis, c'est un service de coup de main, on peut dire ça comme ça, pour les seniors. Ça leur permet de rentrer en contact avec des étudiants qui vivent pas très loin de chez eux.
Exactement.
Et ces étudiants vont leur donner un petit coup de main, quel qu'il soit.
Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, chez Allo Louis, on connecte seniors et étudiants localement, donc des seniors qui ont des petits besoins de coup de main. Ce sont des coups de main qui ont la particularité de ne pas nécessiter d'expertise particulière. Et donc qui sont pour autant très peu pris en charge par les services d'aide à la personne conventionnels.
Vous pensez à quel type de petits coups de main ?
Il va s'agir d'aide informatique, par exemple, de changement d'ampoule, de rangement, tout simplement.
Aller à la cave chercher un meuble ou des cendres, aller chercher une baguette.
Tout à fait.
Voilà. Et ça rentre pas effectivement dans les services à la personne où c'est davantage peut-être des choses plus médicalisées, des prises de médicaments. Là, ce sont des étudiants qui sont près des personnes âgées et ils viennent. Comment peuvent-ils être mis en relation? C'est grâce à vous, mais comment ça se passe? C'est avec le téléphone, je crois. Je crois pas qu'il y a Internet qui intervienne.
Exactement. On a un service téléphonique justement qui permet de contourner un peu la barrière du numérique auquel ces personnes pourraient être confrontées. Donc elles nous appellent, elles nous font part d'un besoin, et ce besoin, nous, on le qualifie, on essaie de comprendre déjà si des étudiants peuvent y répondre, et on le transmet à notre communauté d'étudiants qui, localement, en fait, l'un ou l'une d'eux, donc on a appelé ces étudiants les Louis, va valider la demande et se présenter auprès du senior, rendre service, et rémunérer. Ce sont donc des coups de main qui sont rémunérés 10 euros par heure.
Les Louis, pourquoi Louis ?
Ben en fait, on cherchait un nom qui illustre un peu le côté intergénérationnel, qui soit à la fois le nom de l'étudiant, mais aussi le nom du bénéficiaire. Mmh. Et puis Louis est arrivé sur la table.
Et c'est arrivé, exactement. Il y a des étudiants Louis qui viennent rendre visite à des Louis.
Oui, des Louises aussi.
Des Louises. Alors vous, c'est important, je le précise, hein, parce que vous avez 28 ans, vous êtes jeune, et vous êtes un entrepreneur. Moi, en lisant tout votre profil, vous êtes un entrepreneur dans l'âme, puisque vous êtes déjà votre deuxième entreprise. Vous aviez fondé Graps pour lutter contre le gaspillage alimentaire il y a 3 ans. Ça a été racheté par notre coach, hein, par le président, le fondateur de Phoenix. Là, vous vous êtes dit quoi? Comment vous avez mis cette idée? Pourquoi les personnes âgées? Je crois qu'il y a un lien avec votre grand-mère.
Oui, tout à fait. Il y a deux liens, en fait. Il y a vraiment ce côté l'épanouissement que je voulais retrouver à travers l'aventure entrepreneuriale, mais l'aventure à impact, justement. Et donc aujourd'hui, c'est ça, ma vision, c'est plus celle d'un acteur du changement, en fait, qui a envie de s'investir auprès d'enjeux de société. Des enjeux, il y en a beaucoup. C'est vrai que ma première aventure, c'était le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, c'est justement apporter une solution sur la lutte contre la perte d'autonomie chez les seniors.
Parce que vous l'avez vécu, ça, avec votre grand-mère ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, un constat commun avec mon associé. À chaque fois qu'on rend visite à nos grand-mères respectives, on se rend compte qu'il y a tout un tas de petits besoins qu'elles peuvent avoir, qu'elles nous prennent 3 minutes.
Et qu'elles n'ont plus la possibilité, ou qu'ils n'ont plus la possibilité de faire parce qu'ils sont moins mobiles.
Exactement, exactement. Et donc qu'il est handicap, en fait, petit à petit.
Ouais, comme par exemple ouvrir un courrier.
Ça peut être. Je sais que moi, souvent, quand je vais chez ma grand-mère, elle a une grosse valise, parce qu'elle se déplace pas mal, qu'elle ne peut pas remonter, en fait. Donc c'est souvent dans la voiture, c'est laissé. Et donc, je l'aide toujours à remonter.
Vous allez dans la voiture, vous prenez la valise et vous la remontez chez elle.
C'est ça, mais c'est une valise qui peut rester parfois une semaine avec potentiellement des choses importantes dedans. Ouais. Et donc, en fait, très rapidement, on a identifié aussi ce sentiment de culpabilité que pouvaient avoir certains seniors.
Parce qu'ils n'osent pas vous demander.
C'est
ça,
exactement.
Et ça, vous l'avez ressenti ?
Tout à fait. Alors, ce n'est pas qu'ils n'osent pas vraiment demander, c'est qu'ils n'osent pas en tout cas solliciter leurs proches, la famille, par peur de déranger. Et donc, passer par finalement un service annexe qui va faire ce lien avec des étudiants. Il y a un côté ludique aussi, parce que c'est finalement des échanges hyper enrichissants. Mmh. Et bien, ça passe beaucoup mieux.
Que dit notre coach, Pierre ?
Alors, je me demande, donc, votre modèle économique pour... donc déjà, bravo, c'est fantastique. Enfin, je pense que ça répond à un vrai problème.
Deuxième entreprise, 29 ans.
Oui, donc,
on est dans la France bouge.
Et par contre, je m'interroge sur le modèle économique. Donc, vous prenez une 6 euros sur chaque transaction que vous facilitez. On voit que pour, par exemple, déplacer une valise, ça va nécessiter un appel chez vous, une mise en relation manuelle chez vous, etc. Donc, vous avez une friction assez importante. Ouais. Et je me demande si ce modèle économique est compatible, est aligné sur votre objet social. Finalement, votre objet social, c'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes au contact des personnes âgées pour les aider. Donc, c'est d'intensifier, de maximiser le nombre d'actes d'entraide qu'il puisse y avoir.
Et le lien social aussi.
Exactement, et le lien social que ça provoque. Peut-être que on pourrait peut-être plus se tourner vers la facilitation, plutôt avoir un modèle économique tourné sur des adhérents, des étudiants, et permettre à la personne âgée de plutôt rentrer en contact direct ensuite pour diminuer ce coût de transaction, finalement, y avoir une meilleure relation avec la personne. Et est-ce que ça serait compatible, ça, avec votre modèle économique d'aller vers ça?
Oui, c'est très pertinent ce que vous avancez. On n'a en effet pas forcément vocation à être présent sur chaque visite pour faire ce lien-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a développé l'offre abonnement, justement. On a deux formules, une offre à 10 euros par mois qui comprend deux visites dans le mois, une offre à 20 euros illimitée. Et donc, ce qui se passe notamment sur cette offre illimitée, c'est que la connexion se fait une première fois. Et ensuite, ça tourne tout seul. Et donc, nous, finalement, on est là pour faire le suivi, pour réaliser les déclarations aussi administratives. Ça, c'est à notre charge. Mais là, pour le coup, on capitalise plus sur le nombre de visites en soi et on a moins ce rôle d'intermédiaire.
Combien de visites, enfin combien de bénéficiaires et de personnes inscrites depuis, depuis l'existence de votre site, c'est-à-dire depuis, depuis quelques mois, depuis fin 2019.
Oui, c'est ça, ça reste encore très récent, c'est un travail de fourmi en fait, ce travail d'acquisition. Donc pour l'instant, on a une centaine de bénéficiaires, principalement sur Paris, pour à peu près 200 étudiants. Il faut compter, c'est ça, 2 à 3 étudiants par, par bénéficiaire pour s'assurer que la visite soit, soit prise en charge rapidement.
Et la moyenne d'âge des personnes?
C'est 77
ans. 77 ans. Ouais. Et vous visitez là, vous vérifiez la fiabilité, le sérieux de ces étudiants, parce qu'on...
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. On a un process de sélection où on commence par remplir en tant qu'étudiant un questionnaire qui nous permet d'avoir accès à des informations le concernant. Et puis dans un second temps, on va tester bien évidemment sa motivation, mais surtout sa capacité d'écoute, son expression orale. Et en fait, nous, on les sensibilise beaucoup justement à l'identification de besoins qui n'auraient pas été remontés.
De les anticiper, pas d'attendre que ce soit verbalisé.
Exactement, parce que parfois, on se déplace en fait pour un besoin informatique et puis on va à la salle de bain, on se rend compte qu'il n'y a plus de lumière, que l'ampoule, en fait, ça fait 2 semaines qu'elle a brûlé. Et donc l'idée, c'est d'être proactif en tant qu'étudiant, justement, et de proposer son aide, toujours avec cet objectif d'améliorer la qualité de vie des seniors à domicile, en fait.
Vous parliez de Paris, vous envisagez peut-être de vous étendre dans les zones un peu plus éloignées, voire même dans les zones rurales, où il pourrait y avoir beaucoup de demandes aussi, beaucoup de besoins.
Alors, notre service est vraiment centré sur les villes. Il y a une notion de proximité avec les étudiants qui est très importante. Ouais. Donc, malheureusement, on n'a pas forcément vocation à être présent
Ça peut être une idée quand même.
Tout à fait.
Il y aurait des besoins.
Oui, exactement. Oui,
tout à fait. Aurélien, pour continuer à venir en aide aux seniors isolés pendant l'été, La Poste propose plusieurs services.
Oui, effectivement, le service Veiller sur mes parents qui organise des visites régulières du facteur pour éviter de trop longues périodes d'isolement. Donc concrètement, on choisit la fréquence et les jours de visite du facteur. Ça peut être 1, 2, 3 jusqu'à 6 passages par semaine, durant lesquels il va discuter quelques minutes avec la personne âgée. Une application permet à la famille d'être informé de la manière dont cela s'est passé. Le service coûte à partir de 39,90 € par mois pour une visite par semaine. Toutes les précisions sont sur le site de La Poste à la rubrique Veiller sur mes parents. Et puis, il y a aussi la livraison de repas. On a déjà parlé dans l'émission, je le rappelle.
On les avait reçus dans La France Bouge, même le porte-parole de La Poste pour nous parler de ce service.
Avec Saveur et Vie, ce qui permet d'assurer la continuité d'une alimentation variée, équilibrée, et puis surtout prévenir des risques éventuels de dénutrition.
On reste ensemble, on découvre des solutions pour ne pas laisser nos seniors seuls cet été. Europe 1. Restez avec nous, permettre aux anciens d'échanger autour de l'art et de la culture. Une start-up le permet et ça se passe même dans des EHPAD. Sa fondatrice, sa cofondatrice est avec nous. Ça s'appelle Artora. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
On prend soin de nos personnes âgées cet après-midi, pendant l'été. Comment rompre l'isolement des seniors? Nous sommes avec Pierre Piesiardi, notre coach, avec Aurélien Fleureau et avec vous, Laura Largillet. Bonjour.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Vous êtes la cofondatrice d'Artora. Artora, A-R-T-O-R-A. C'est une start-up pour reconnecter les générations, c'est-à-dire les anciens et les plus jeunes, par l'art. Conserver ce lien social à travers l'art. Comment vous faites pour pouvoir connecter les deux?
Alors exactement. Artora, donc c'est une entreprise que j'ai cofondée en 2018. Donc on a maintenant 2 ans. Et c'est une entreprise qui a été pensée alors qu'on était encore étudiants avec mes associés, donc sur les bancs de l'école du Louvre, qui est une école où on nous enseigne l'histoire de l'art. Et c'est parti un peu d'un double constat. Le premier, qui était que on avait des grands-parents, des arrière-grands-parents, bien sûr, qui étaient dans des EHPAD, des résidences seniors, et qui se plaignaient peut-être de ne pas avoir accès encore à ce monde de la culture comme ils pouvaient le vivre auparavant, et surtout qui se plaignaient de ne plus apprendre de nouvelles choses.
Et ça, c'est-à-dire qu'ils sont en EHPAD, ou ils ont arrêté leur activité professionnelle, et là, ils se disent « je ne peux plus rien apprendre, et pourtant, j'en ai envie ».
Exactement, enfin, ce n'est pas parce qu'on a 80, 90 ou 100 ans même qu'on n'a plus envie de découvrir de nouvelles choses et de se laisser emporter, de se laisser émerveiller. Donc ça nous a paru d'un côté évidemment très triste. Et puis de l'autre, il y avait notre expérience d'étudiant, évidemment.
Vous aviez travaillé dans un EHPAD aussi.
Oui, alors c'était un job, d'étudiant.
Mais
oui.
Un job étudiant, c'est là où on observe le plus.
Exactement. Moi, j'étais femme de ménage, donc voilà, au bas de l'échelle de l'EHPAD peut-être, mais vraiment au service de ces personnes-là. Et justement, on se rend compte de l'isolement qui peut se créer quand on est dans un EHPAD. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment poussé à créer Artora. Et puis, de l'autre côté, pour les étudiants, une volonté aussi de leur offrir un job qui soit quelque chose qui va leur rapporter de l'argent et qui va leur permettre de mettre en pratique toutes les connaissances théoriques en fait, qu'ils accumulent au fur et à mesure de leurs études. Et finalement, on a parfois du mal à mettre en pratique concrètement ces connaissances.
Donc, c'est mettre en pratique ce qu'ils apprennent et aussi donner un sens en étant connecté, en étant en échangeant avec ces personnes âgées. Voilà. Concrètement, ça se passe comment ?
Alors, nous, donc, on travaille avec à peu près une centaine d'étudiants aujourd'hui, alors beaucoup en histoire de l'art, en littérature, en histoire également, qui vont se rendre donc, de façon régulière dans des EHPAD, des résidences seniors, voire des clubs seniors à Paris partenaires, et qui vont donc proposer un moment d'échange autour de l'art. Alors, on appelle ça des conférences parce que c'est plus simple, mais le but, c'est pas qu'il y ait l'étudiant qui détienne le savoir et qui vienne le transmettre de façon un peu monobloc à un auditoire. Au contraire, nous, on met vraiment l'accent sur le fait de poser des questions, d'écouter les personnes âgées et de s'enrichir de ces expériences. Parce que les étudiants avec lesquels on travaille sont des spécialistes, donc ils ont bien sûr des choses à dire. Les personnes âgées qui ont 80 ans de vie et d'expérience derrière elles, évidemment, elles ont aussi des choses
à partager. Et à partager. Que dit notre coach, Pierre Piesiardi ?
Alors, c'est super, toutes ces initiatives sont fantastiques. Elles contribuent à l'amélioration des politiques publiques et du traitement de nos aînés. Moi, je suis ravi que vous fassiez ça. Je m'interroge aujourd'hui, votre souci, c'est quoi ? C'est plus d'acquérir de l'offre, d'avoir plus d'étudiants ? Ou c'est plutôt de la demande où vous avez où est-ce que la machine et le goulet d'étranglement de la machine, il est où aujourd'hui ?
Il n'y en a pas vraiment.
Tout va bien.
Évidemment, là, on a vécu une crise, comme vous pouvez l'imaginer.
Comment ça s'est passé, justement, pendant le coronavirus ?
Alors, pendant
puisque
le coronavirus,
là, on ne pouvait pas, on le sait tous, y a eu, les EHPAD ont été verrouillés. Hein, on ne pouvait pas aller rendre visite à nos anciens. Vous avez mis en place quelque chose en particulier pour pouvoir garder ce lien ?
Alors, évidemment, bon, après une petite période de dépression au début de cette épidémie. Parce que, bon, évidemment, nous, on travaille aussi avec les particuliers, avec des entreprises et avec les seniors. Bon, tout cela s'est arrêté. Donc, évidemment, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans activité. Mais on a décidé de continuer dans cette volonté de partager l'art au plus grand nombre et bien de proposer des choses avec le numérique et sur les réseaux sociaux notamment. Donc des petites vidéos de 3 minutes sur l'histoire de l'art tous les jours qui étaient aussi réalisées par nos étudiants, donc qui pouvaient partager leur passion et choses parfois très pointues.
Et c'était projeté dans les EHPAD ?
Et on a contacté nos EHPAD partenaires, bien sûr, qui pour certains donc ont permis aux résidents d'entendre cela. On a également organisé des conférences en visio, notamment aussi sur les réseaux sociaux, qui ont pu être, pareil, transmises dans les EHPAD. Ça a été une chose qu'on a faite. Et puis, évidemment, on a réfléchi un peu à l'avenir d'Artora. Et je profite de cette antenne pour remercier déjà les animateurs et les animatrices en EHPAD, qui sont nos interlocuteurs privilégiés. Sont des gens dont on parle finalement assez peu, mais qui ont un rôle qui est vraiment central dans la vie de la maison, qui font le lien entre les résidents, mais aussi avec le monde extérieur. Et ces animateurs et ces animatrices, ils sont de plus en plus pris en fait par le recrutement d'intervenants extérieurs qui leur prend énormément de temps. Et donc notre nouvelle idée, c'est vraiment de créer des packages d'animation tout compris, où on va retrouver 3 pôles qui sont pour nous, qui nous semblent essentiels dans le bien vieillir. Le premier, c'est le savoir. Donc continuer avec nos conférences évidemment intergénérationnelles.
Mais c'est quoi, c'est des conférences sur quoi ? C'est eux qui choisissent le thème ? C'est vous qui proposez ?
C'est un peu de tout.
C'est quoi par exemple ?
Alors ça peut aller de Léonard de Vinci à Jean-Michel Basquiat à une découverte de l'art contemporain ou revenir sur l'histoire de la Mésopotamie. Voilà, donc ça peut être extrêmement varié.
C'est
des
eux
voyages
qui choisissent
également.
Ou c'est vous qui proposez ?
Alors ça dépend en fait de chaque EHPAD. Dans certains EHPAD, les animateurs vont choisir. Dans d'autres, ils vont nous demander des suggestions. Et puis nous, ce qu'on préfère faire, c'est faire voter en fait les résidents, évidemment.
Bien évidemment que du coup ils ont l'impression de, enfin ils participent.
Ils participent pleinement
depuis le début jusqu'à la fin de la conférence. Aurélien, il y a beaucoup d'initiatives locales qui s'organisent cet été.
Oui, alors comme tous les étés, sauf que forcément il faut s'adapter. Je vous donne un exemple, c'est ce qu'a fait l'association Rosée Senior à côté de Nantes en Loire-Atlantique. Alors pas d'activité en salle cette année, mais tout va se faire en plein air, des randonnées, des visites, initiation aux échecs, au théâtre, des initiatives qu'on retrouve partout dans le pays. J'ai cité un exemple au hasard presque. Il faudra évidemment avoir les gestes barrières, quelques nouvelles habitudes, mais garder en tête que ce qui existe habituellement n'est pas annulé.
Oui, c'est pas annulé, on garde le lien, c'est hyper important. Vous disiez que vous pouviez maintenir le lien dans les EHPAD, mais aussi avec les particuliers. Par exemple, si on veut vous contacter, on veut qu'un étudiant en art vienne rendre visite cet été régulièrement pour parler d'art avec ma grand-mère ou mon grand-père, c'est possible ?
Alors nous, c'est pas exactement ça qu'on propose avec les particuliers, c'est une activité plus classique de visite guidée, mais on
par
vous
exemple.
Encourage bien évidemment.
Mais par exemple, ça peut donner quoi pour cet été avec un particulier ?
On travaille beaucoup à Paris pour cet été, justement pour des Parisiens qui connaissent déjà leur ville et qui ont envie de la redécouvrir. Mmh. Donc ça peut être des visites autour du Paris LGBT, des femmes au Père-Lachaise, des visites autour du Paris fait-moi peur, donc essayer de revoir la ville un petit peu d'une façon
différente. Donc là, c'est des personnes âgées qui sont autonomes.
C'est des personnes âgées autonomes, et puis c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui.
Voilà, donc c'est pas, voilà. Votre activité n'est pas seulement centrée sur les personnes âgées, c'est pour
non,
tout le monde.
Non, bah non.
Ouais. Pierre ?
Non, c'est génial. Moi, je pense qu'avec. Mais tu as indiqué que tu pouvais. Tu imaginais même que, comme un des problèmes, c'était pour ces gens-là, c'était la programmation.
Pour les animateurs.
Pour les animateurs.
Oui. Des EHPAD.
Et tu t'imaginais sortir de ton rôle strictement de conférence artistique et de devenir un peu plateforme pour accueillir d'autres types de gens comme moi qui feraient du soutien informatique, par exemple.
Par exemple, en fait, on le fait déjà parce que. On organise
mais
vous êtes le bienvenu, vraiment, n'hésitez pas. On organise déjà des ateliers, ce genre de choses, mais donc ouais, on voudrait agir sur ces trois pôles, donc le savoir, également un pôle bien-être, parce que voilà, bien vivre, bien vieillir dans son corps, avec par exemple du yoga, de la sophrologie. Et puis un dernier pôle qui nous tient aussi pas mal à cœur, qui serait autour des sens. On a remarqué en fait en donnant nos conférences que ça faisait ressurgir énormément de souvenirs et passer par les sens, notamment par l'odorat, par le goût et aussi par la réalité virtuelle. Utiliser ces nouveaux outils en fait à notre disposition, ça nous semble une super opportunité dans les EHPAD pour bien vieillir comme on le souhaite tous ici, évidemment.
Évidemment. Aurélien, on se protège aussi un peu sur l'été, mais évidemment le printemps a été compliqué hein, pour les seniors qui sont isolés. Un constat chiffré que vous avez pu vous procurer.
Oui, c'est l'association Les Petits Frères des Pauvres qui a publié un rapport sur l'impact du confinement, une enquête menée par l'Institut CSA auprès de personnes qui ont plus de 60 ans et des résultats peu surprenants malheureusement. 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement, 650 000 n'ont trouvé personne à qui parler. Et puis autre constat de ce rapport, pour 41% des personnes âgées, il y a eu un impact négatif sur leur santé morale et pour 31% sur leur santé physique. Donc Les Petits Frères des Pauvres en ont profité pour alerter les pouvoirs publics à travers un manifeste qui s'appelle « Plus jamais invisible ». Et on peut le trouver évidemment sur leur site, le signer et le partager.
« Plus jamais invisible ». Alors après l'art, il y a une autre façon de tisser du lien social, le jardinage. Le jardin d'essence, c'est un projet qui est porté par l'association À vos soins, qui utilise le jardinage pour tisser du lien social. Bonjour Gilles Douen-Bodiguel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Saint-Nazaire, hein, c'est ça ?
Exactement.
Et vous êtes le chargé du projet Le Jardin, l'arbre au sens pour l'association À vos soins. De quoi s'agit-il ? Je crois que vous êtes parti du constat que toutes les personnes âgées n'ont pas de jardin, n'ont pas de balcon, elles ne sont pas forcément toutes en EHPAD. Et donc là, vous allez peut-être les aider et intervenir.
Tout à fait. C'est même parti d'un constat de ma vie personnelle. En rendant visite à mon grand-père dans son EHPAD, je trouvais qu'il s'ennuyait. Il parlait beaucoup de jardinage. Il avait fait du jardinage toute sa vie. Et du coup, je lui ai fabriqué une jardinière à hauteur. Je lui ai amené de la terre et des plantes. Et puis, je l'ai vu, ça a amélioré sa mobilité, ses gestes, créer du lien avec ses voisins, même au niveau de la mémoire, et puis même l'intergénérationnel avec les petits-enfants. Et du coup, je me suis associé à l'association À vos soins pour créer un lieu dans un quartier, dans une ville, donc la ville de Saint-Nazaire, un espace qui nous a été mis à disposition pour faire des plantations. Alors, faut pas imaginer des plants de poireaux, de tomates. On est plutôt sur un jardin ornemental.
De fleurs.
Avec des plantes. On travaille sur les cinq sens. Et donc, chaque activité est menée par moi-même et je suis accompagné d'un professionnel de santé. Donc, une fois, c'est une psychologue. C'est aussi un kiné, c'est aussi un ostéo. Et donc, du coup, avec les personnes âgées, on fait ces plantations-là. On trouve qu'il est plus facile de faire des plantations et de discuter de ces problèmes de santé accompagnés d'un psychologue ou d'une infirmière le praticien et le patient sont au même niveau. Ainsi que faire de la rééducation, c'est plus sympa, plus joyeux de faire ça dans un jardin avec un kiné que des fois dans une salle blanche.
Alors, ce qui est important de préciser, c'est que vous visez spécialement aussi les quartiers dits prioritaires.
Exactement. Mmh. On est implanté dans un quartier prioritaire, le quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire, où justement on veut être à proximité de ces quartiers-là pour donner facilité d'accès à tout ce public de seniors.
Alors vous choisissez en fonction de la pathologie de la personne, si c'est un psychologue, un kiné, un ostéo, pour pouvoir effectuer les plantations?
Pas forcément.
J'ai mon vivier
en fait. C'est
en fonction d'un planning alors.
Et voilà, c'est comme un planning. Et puis aussi, on échange avec les structures, que ce soit les maisons de retraite qui veulent participer au projet ou déjà les gens qui participent au projet. Bah, des fois, on les demande. Donc moi, j'organise en fonction de ce planning-là les activités.
Et c'est quoi travailler sur les cinq sens? Vous nous disiez, on travaille sur les cinq sens avec les personnes âgées. Ça veut dire quoi?
Mais c'est surtout sur le choix des plantes.
Ouais,
on travaille sur des pôles de couleurs. Donc on travaille sur des pôles de couleurs, donc avec des plantes qui sont jaunes, qui sont vertes, qui sont rouges. On travaille aussi avec l'aromatique. Beaucoup les plantes aromatiques
pour les odeurs,
une quarantaine, pour les odeurs et même pour le toucher. On plante aussi du bambou, de l'osier, des graminées. Donc comme ça, avec le vent, ça fait du bruit, donc ça interpelle également.
Pierre, vous avez vu, vous entendez?
Oui, c'est super. Mais je me demande, par contre, j'arrive pas à percevoir la dimension que ça a pris. C'est-à-dire que votre jardin à Saint-Nazaire, il irrigue un seul EHPAD, il est à côté d'un EHPAD ou il irrigue plusieurs EHPAD et il faut s'y rendre?
Non, c'est pas pour les EHPAD, c'est pour les personnes qui vivent seules surtout.
Et qui vivent seules, hein.
Alors ben voilà, il y a les deux publics, hein. Il y a pour les personnes qui vivent seules et également pour les EHPAD. Et donc ce jardin en fait est accessible par les transports en commun ou autrement les EHPAD se déplacent avec leur véhicule pour venir sur place.
Et là vous allez l'agrandir en plus parce que ça marche très très bien.
Et ben là ça marche très bien, rien qu'on a commencé le 16 juin, on a déjà 49 participants donc qui ont à ces ateliers-là, et on a encore des inscriptions pour la suite. Bon, il faut savoir qu'on a un petit virus qui nous a quand même coupé l'air.
Mais c'est quand même né aussi du virus, hein. C'est le virus qui vous a boosté pour lancer cette activité.
Bien sûr, et on se rend compte justement, donc moi je suis accompagné d'une psychologue, Blandine, depuis la sortie du confinement, et effectivement il y a des personnes qui en ont réellement besoin, et donc qui viennent tous les jours à ce jardin-là pour profiter.
Tous les jours, vous entendez Pierre?
Et bien sûr, et on a envie de vous voir réussir, mais surtout on a envie de vous voir vous répliquer, vous propager.
Oui.
Est-ce que vous avez cette ambition de répliquer cette forme qui finalement, il suffit d'un lopin de terre, une énergie comme la vôtre,
c'est
du
ça.
Savoir-faire, et tout ça pourrait se répliquer. Vous en avez l'ambition?
On en a l'ambition et puis on est en train de prospecter même pour un terrain plus grand parce que là on est sur 500 mètres carrés. On fait des fabrications aussi un petit peu atypiques. On fait des tables et des bancs circulaires autour des arbres. On installe des ronds en fer forgé avec des plantes grimpantes de la mosaïculture. Donc il y a différentes sculptures qui arrivent sur le terrain. Donc il va falloir qu'on fasse plus grand sûrement.
Eh ben, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci, merci à vous d'être venu nous parler. Merci Gilles-Douane Bodiguel d'être venu nous parler de votre projet, le jardin L'Arbre au Sens. Vous êtes à Saint-Nazaire et bravo. Là aussi, on le voit encore, Pierre Aurélien, toutes ces idées qui sont nées du confinement, qui sont nées de la crise, pas toutes pour Louis, mais voilà, ça prend une ampleur tout à fait spéciale et particulière. Merci à tous les trois d'être venu nous présenter vos solutions pour que l'on puisse prendre soin de nos aînés cet été à travers l'art, à travers le jardinage ou juste un petit service pour ne pas les laisser seuls tout en maintenant ce lien essentiel et qui est vital pour eux.
Europe 1.
Vous avez une entreprise, vous rencontrez des difficultés, l'équipe de La France Bouge est là pour vous avec CCI France et c'est le coup de main d'Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Nathalie Carré de CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Vous allez éplucher les dossiers, les conseils, et vous donner des directions à prendre à tous les entrepreneurs qui nous écrivent. Ils sont nombreux pour recevoir votre petit coup de main. Et aujourd'hui, c'est Caperly, concepteur d'outils collaboratifs. Ce sont des jeux pour de grandes marques. C'est des concepts de jeux participatifs que l'on peut proposer en entreprise lors des séminaires, par exemple, pour favoriser, comme on dit, la créativité en entreprise. Bonjour Lydia Martraire.
Oui, bonjour, merci.
Merci à vous. Vous êtes la fondatrice, présidente de Caperly. Et vous, votre souci, c'est que vous êtes totalement dépendante des entreprises. La crise est passée par là. Tout a été arrêté en matière de séminaires. Hein. Donc, je crois que vous avez une question à poser à Nathalie Carré. On vous écoute.
Oui, effectivement. Alors nous, jusqu'ici, 80% de nos ventes se faisaient auprès de grands groupes, comme vous venez de le rappeler, au niveau des RH, des services de formation ou des managers. Et effectivement, notre problématique, c'est de se dire qu'on voudrait toucher et outiller avec nos jeux plus de coachs, de formateurs indépendants, de consultants qui viennent déjà à nous, mais qu'on n'a pas eu forcément le temps de beaucoup adresser. Et là, on voudrait mettre en place une communauté pour animer ces professionnels de l'animation, justement. Et on voudrait quelques conseils, quelques astuces pour bien lancer ce business model hein, de cette nouvelle offre. Donc, tous les conseils pour lancer cette communauté sont bons à prendre. Voilà notre problématique du jour.
Alors, on vous écoute, Nathalie Carré. Qu'est-ce que vous avez à répondre ?
Alors, comme on est en situation de crise, partir de zéro, recréer, aller chercher des ressources pour créer quelque chose de nouveau, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est toujours plus facile de partir de ce qu'on a et d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a. Donc, ce que je pourrais vous proposer, c'est peut-être, vous l'avez évoqué à un moment donné, c'est-à-dire, vous êtes les grands groupes, c'est long, hein, le cercle de décision est long. C'est plus facile dans les TPE ou dans les PME. Peut-être qu'en fait, vous allez faire d'une pierre deux coups. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en travaillant avec des TPE, PME, en proposant des packs, des offres beaucoup plus organisées, beaucoup plus simple que ce que vous pouvez proposer à des grands groupes, vous allez démultiplier vos clients plutôt TPE et donc pour ça, vous allez avoir besoin de partenaires experts pour pouvoir assurer les animations dans les TPE. Et du coup, ce faisant, vous allez créer votre communauté de consultants, d'experts que vous allez former, que vous allez sélectionner, que vous allez former pour pouvoir assurer les prestations à vos côtés, puisque vous êtes 5, vous ne pouvez pas forcément vous démultiplier. Donc là, c'est assez simple finalement, ces consultants, ces experts, ils sont où ? Ils sont sur LinkedIn, majoritairement. Et puis surtout, j'ai vu que vous avez une chaîne YouTube, mais elle n'explique pas assez en fait, vos vidéos, elles n'expliquent pas assez l'usage, parce que il y a énormément d'ingéniosité dans vos jeux. Mais en fait, on voit juste la jolie boîte, on voit ce qu'il y a dedans, mais il faut vraiment montrer comment on les utilise pour donner envie, parce que vous savez, ces experts, ils sont experts. Donc, ils ont leur méthode. Et donc là, ce que vous allez leur proposer, c'est une nouvelle corde à leur arc. Mais il faut qu'ils l'apprennent, cette nouvelle corde. Alors, apprendre, parfois, ça dérange un peu. Donc, il faut donner envie. Et là, vous devez renforcer la démonstration de l'intérêt de vos boîtes et toute l'ingéniosité qu'il y a derrière vos différents jeux. Donc, utilisez votre chaîne YouTube, elle existe. Il faut la démultiplier en termes d'abonnés. Et utilisez LinkedIn, vous avez un compte, pour pouvoir aller chercher des partenaires, mais à qui vous allez proposer en fait du business, parce que vous allez développer une offre pour les TPE qui sont beaucoup plus faciles à toucher et avec des circuits de décision qui sont beaucoup plus courts. Je vais vous envoyer tout ça par mail.
Vous avez
aussi beaucoup travaillé pour
TPE. Mais Nathalie va tout vous mettre par mail. Pierre a aussi quelque chose à ajouter.
Allez, je vous donne un point de vue complémentaire de Nathalie, une fois n'est pas coutume. En fait, moi, je, dans votre situation, je reprendrai le point de Nathalie au début. C'est compliqué, une crise. Et là, vous faites un double écart par rapport à ce que vous savez faire. C'est-à-dire, vous allez chercher des clients que vous ne connaissez pas, des PME, et avec un produit que vous n'avez pas encore fabriqué, qui est un assemblage de quelque chose qui va utiliser des ressources que à l'extérieur. Donc c'est un pari, ça peut être tenté, mais moi je ferai un pari moins risqué en fait, je ferai un pari, je me dis mais au fond, vous savez malgré tout vendre à des grands groupes, c'est ça vous en avez vendu, vous avez vécu là-dessus, donc vous avez des relations, et maintenant ils n'organisent plus de séminaires, mais si fort de ces relations, changez un peu uniquement votre produit, devenez le leader de l'animation de séminaires en ligne ou de machin, vous aurez des clients. Les gens, ils ont toujours des problèmes de team building, dans le CAC 40, il y a toujours 30% de bullshit job, on s'y ennuie, c'est le moment, mais simplement, vous voyez, donc restez proche de vos clients que vous connaissez
et adaptez votre produit. Merci oui. Pierre, merci Nathalie Carré, merci à vous Aurélien, on se retrouve demain. Demain, nous parlerons d'hébergement insolite dans la France Bouge. Europe 1, il est 14h.